Tu entends ce crépitement ? Nous aussi. C'est le feu de joie qui brûle sous l'envie de frivoler. Oh les cœurs ! Erdiwa présente. Les filles de joie. Émission au BPM mensuel qui se joue du patriarcat pour allègrement le réduire en paillettes. Et on laisse la parole à Faune. Et
Lulu.
Et Lulu. Oui, oui, je ne savais pas si je pouvais dire Lulu. Voilà, Faune,
c'est
Lulu.
Maintenant.
Et Ilan.
Ouais, alors oui, nous sommes trois. Pourquoi ? Alors ma chronique va parler d'une écrivaine qui s'appelle George Sand. Et pour introduire cette chronique, je vous propose de l'écouter en fait. L'écouter à travers la voix de deux copines qui vont lire une lettre qu'elle a écrite à Alfred de Musset, donc son amant de l'époque. Et dans cette lettre, en fait, c'est une lettre très courtoise où ils échangent ensemble. Mais au travers, il y a un message caché parce qu'à l'époque, elle était mariée et il ne fallait pas que ça sache qu'elle avait un amant et qu'elle lui donnait des rendez-vous. Donc à travers cette lettre, il va y avoir deux lectures qui cachent, une qui cache le message et l'autre qui est la lettre visible. Quoi. Voilà.
Bonsoir. Cher ami, je suis tout émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre jour que vous aviez toujours une folle envie de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais bien que ce soit une preuve que je puisse être aimée par vous. Je suis prête à montrer mon affection, toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir ainsi, vous dévoiler sans artifice, mon âme toute nue, daignez me faire visite, nous causerons et en amis franchement, je vous prouverai que je suis la femme sincère, capable de vous offrir l'affection la plus profonde, comme la plus étroite amitié. En un mot, la meilleure épouse dont vous puissiez rêver. Puisque votre âme est libre, pensez que l'abandon où je vis est bien long, bien dur et souvent bien insupportable. Mon chagrin est trop gros. Pardonnez-moi. Accourez bien vite et venez me le faire oublier. À vous, je veux me soumettre entièrement. Votre poupée.
Je suis tout émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais bien que ça soit par vous. Je suis prête à montrer mon cul et si vous voulez me faire ainsi et si vous voulez me voir, le téléphone s'est coupé. Merci.
C'est de la censure.
La recensure. Georges Sand n'aurait pas été super d'accord. Alors, le parchemin, voilà.
Tu peux reprendre du début si tu veux. C'est...
Alors, pour préciser, on est en train d'écouter la deuxième version du texte.
C'est ça.
On saute toutes les...
Voilà, j'allais l'expliquer après.
Le cryptage, c'est ça. Je suis tout émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais bien que ça soit par vous. Je suis prête à montrer mon cul et si vous voulez me voir ainsi, toute nue, daignez me faire visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde, comme la plus étroite, dont vous puissiez rêver. Puisque votre vie est bien longue, bien dure et souvent bien gros, accourez bien vite. Et venez la mettre entière. Votre poupée. Ben voilà.
Monsieur
de Musset devait être super.
Bon, alors, c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'elle attise le désir d'un homme, quoi. Donc, on est vraiment dans les schémas, dans cette lettre qui correspondent au désir de l'homme, hein, là-dedans. Alors du coup, en fait, cette lettre, elle l'écrivait en sautant. En fait, il y avait un message caché. Si on lit une ligne sur deux, il y a un message caché. Voilà. Alors moi, je vais commencer ma chronique qui parle de George Sand. Donc George Sand, c'est un nom d'homme, mais pourtant, c'est une femme. Donc c'est une femme. Je vais prendre mon petit carnet qui...
Sous mes fesses.
Sous ses fesses. pour pas me tromper, parce que je vais te donner un peu des dates. Donc voilà. Donc George Sand, en fait, elle est née sous le nom de Amandine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil en 1801 à Paris, de parents qui venaient tous les deux de milieux complètement différents. Donc la mère de George Sand venait d'un milieu plutôt populaire et son père, Maurice Dupin, lui, il était maréchal de Saxe, donc famille d'aristocrates. Donc à l'époque, déjà, quand ses parents sont tombés amoureux, c'était déjà controversé, ça se faisait pas du tout. Leur mariage, il a pas été du tout apprécié par la grand-mère de Aurore. Donc voilà. Donc Aurore, elle va perdre son père à genre 4 ans d'un accident de cheval, il va mourir. Et donc elle va se retrouver à être élevée à l'époque par sa grand-mère et non par sa mère. Pour ce faire, sa grand-mère va trouver le moyen d'éloigner sa mère de Paris en lui versant une rente tous les mois pour pouvoir avoir l'éducation de sa petite fille entièrement. Et donc elle va, à travers sa petite fille, continuer à avoir d'une certaine manière son...
Pardon.
C'est bon ?
Ouais. Oui, je suis désolée.
Ouais. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est le direct. Ouais. Donc j'en étais à... du coup, elle va avoir son fils à travers sa petite fille beaucoup. Donc elle va s'attacher à elle, mais d'une manière un peu particulière, pas très saine. Mais voilà, donc elle va la suivre quand même toute sa vie. Donc Aurore, c'est une petite fille qui aime côtoyer les enfants des paysans et qui déjà est très à une âme révoltée et pas du tout d'accord avec le fait d'avoir une éducation d'aristocrate, à mettre des robes, apprendre à marcher droit, tenir la petite cuillère correctement. Et donc déjà ça plaît pas du tout à sa grand-mère qui décide de l'envoyer au couvent à 14 ans. Et donc elle l'envoie au couvent. Et finalement, ce qui se passe, c'est que Aurore, elle va... se trouver pris de passion pour la religion et va même peut-être à un moment décider de devenir nonne, ce qui ne plaît pas non plus à sa grand-mère, qui décide de la ramener donc à Nohant. Nohant, c'est dans le Berry et c'est un grand château. Donc là, elle va la ramener là-bas et puis elle va continuer à essayer de l'éduquer. Entre...
Oui. Ah non, ça va.
Ok, pardon. Et Aurore, à l'âge de 18 ans, entre-temps, elle va quand même devoir s'occuper un peu toute seule là-bas. Donc elle va adorer faire de l'équitation, aller faire des longues balades à cheval. Ou pour que ce soit le plus pratique possible, elle va déjà mettre un pantalon et monter comme un homme. Et c'est à partir de ce moment-là où elle va commencer à apprécier à s'habiller en homme, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle va garder toute sa vie. Voilà. Malgré tout, à 18 ans, elle se marie. Elle va rencontrer son époux et elle va rentrer dans l'aristocratie en tant que femme d'un homme, faire des enfants. Sauf que ça ne le fait pas du tout entre eux. Il est plutôt violent et puis il aime bien les servantes. Voilà, il aime bien les rejoindre la nuit. Et donc ça ne marche pas, quoi. Donc il décide de se séparer mais de ne pas divorcer. Parce qu'il faut savoir que lui, en fait, il vit quand même sous la fortune de son épouse. Parce que sinon, il n'aurait pas vraiment beaucoup d'argent. Donc ils ne peuvent pas vraiment se séparer. Finalement, elle a quand même un peu la mainmise sur lui. Donc elle part à Paris, où là, elle décide en fait de vivre de son écriture. Parce que depuis sa plus tendre enfance, elle a une passion pour l'écriture. Elle adore ça et elle est douée, quoi. Donc elle décide de partir à Paris. Donc elle laisse ses enfants à son mari. Et en fait, 6 mois de l'année, elle va à Paris, où elle vit là-bas. Et en fait, elle essaie de trouver un moyen de vivre de son écriture et de s'émanciper en fait de son mari. Et elle va rencontrer ce fameux Alfred de Musset, qui est écrivain. Et ils vont vivre une histoire d'amour, ils vont être amants, ils vont s'écrire des lettres embrasées. Et puis, du coup, ça ne le fait pas trop dans le couple, parce que ça sait. Et donc, en fait, il divorce. Elle arrive à divorcer de son mari et à s'émanciper vraiment juridiquement de lui, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Elle continue à aller à Paris. Et là, en fait, elle va rencontrer un homme... qui est écrivain, ils vont écrire un livre ensemble et elle va en fait utiliser son nom d'emprunt à cet homme pour pouvoir être édité. Et ça va marcher. Et puis en fait, elle a tellement une frénésie de l'écriture qu'elle continue à écrire, mais elle écrit tout le livre toute seule. Et donc elle décide en fait de signer donc George Sand pour se faire éditer de manière complètement libre, sans dépendre d'un homme, mais en gardant le nom d'un homme pour pouvoir être édité en fait. Elle va écrire Indiana, un livre qui raconte l'histoire d'une femme et du plaisir, de la sexualité d'une femme. À l'époque, ça ne se fait pas du tout. Mais pourtant, vu qu'on pense que c'est un homme, ça plaît. Et en fait, elle est adorée par plein de gens, quoi. Et donc, tout le monde, au bout d'un moment, sait que ce n'est pas un homme, mais une femme. Et en fait, ça va être accepté. ça va être accepté. Et en fait, bah, elle va même aller jusqu'à adopter les vêtements et les coutumes des hommes, aller dans des lieux où ils échangent entre eux, ils discutent, et être acceptée comme ça. Et tout le monde l'appelle Georges. Et ça devient un peu cet homme, elle vit entre ces deux personnages, entre Aurore et Georges, tout au long de sa vie. C'est une femme aussi qui va être très impliquée politiquement, qui va beaucoup s'intéresser en fait au peuple. Et il va y avoir une espèce de second mouvement révolutionnaire une soixantaine d'années après la Révolution française, où là, elle va décider en fait d'aller lutter dans la rue avec le petit peuple. Et en fait, ça va être très violent et ça va être super dur pour elle. Donc du coup, elle retourne dans son château à Nohant. Et en fait, là, elle va se mettre à écrire énormément. Et pendant toute cette période-là, elle va avoir une sexualité très libérée. Elle va avoir des histoires d'amour aussi avec des femmes, avec des hommes, des amours plutôt libres, non exclusifs, ce qui ne se fait pas du tout à l'époque. Et puis elle va continuer à écrire, et elle va vraiment réussir à vivre de son écriture. Elle va même écrire des poèmes, faire des pièces de théâtre. Et avec son fils notamment, elle va monter dans son château une salle de théâtre entière où en fait ils vont proposer au peuple, les paysans du coin, de venir et d'accéder à la culture gratuitement, chose qui ne se faisait pas non plus. Hein, c'était que les bourgeois, les riches qui avaient le droit à la culture. Donc elle va faire ça. Et toute sa vie, elle va vraiment être dans la lutte un peu communiste, féministe à fond. Et elle va même vivre 7 ans avec Chopin aussi. Enfin bon, elle a une sacrée histoire, voilà. Bon, elle va mourir, je ne sais plus, en 1800... Je ne dis pas de bêtises. En 1854, voilà. Elle va mourir d'une occlusion intestinale. Mais il y a un super... voilà,
la fin est moche.
Voilà. Ça va être une amie aussi de grands poètes, d'écrivains type Victor Hugo, qui, à sa mort, a écrit une très belle phrase qui dit que... Je pleure une morte et je salue une immortelle, par exemple. Et elle va écrire aussi un livre qui relate toute son histoire. Et moi, je vous conseille vivement d'aller lire ses récits, ses poèmes. C'est très, très, très intéressant. C'est même, je dirais, un exemple à suivre. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans des livres, il y a une très belle bande dessinée aussi qui a été... que j'ai entre les mains, qu'on peut trouver dans toutes les librairies. Voilà, ça se trouve facilement. Et c'est,
comment elle s'appelle, la BD?
C'est Georges Sand, Femme du siècle.
Oui, voilà.
Voilà.
Peut-être qu'on peut la trouver à la Mosaïque.
Bah oui, tout à fait.
Bah oui, tout à fait, dit-elle, de loin.
À la Mosaïque, c'est exactement là où je l'ai trouvée. Voilà, voilà. C'est super. Des femmes qui l'ont rédigée, elles se sont renseignées, elles ont fait de la recherche hyper approfondie. Donc c'est un beau pavé, c'est une bande dessinée qui se lit quand même... ça se lit pas en une heure, quoi. Donc si vous mettez 20 euros dedans, c'est cool, ça tient... plus qu'une heure. Voilà.
C'est rare pour les bandes.
Voilà, des fois on est un peu... voilà. Donc... Georges Sand. Voilà, j'ai fini.
Merci. Merci.